Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. He left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha.
We're going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead. Goal line. Touchdown. Touchdown.
Touchdown.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 632 du podcast Touchdown Actu. Alors Mathéi, très heureux de vous retrouver pour votre débrief de la deuxième semaine NFL 2023. À mes côtés, Raphaël Masmejean, bonjour.
Salut Alain, salut à tous.
Raphaël, ça a été ce fauteuil cette deuxième semaine, on est toujours dans l'ambiance.
Eh ben toujours dans l'ambiance, écoute, c'était très bien avec Jean-Michel qui nous a présenté quelques belles pépites à suivre cette saison, c'était parfait.
Il y a eu du flair, on en reparlera dans le débrief de demain, parce qu'on parlera des Patriots demain, mais vous avez parlé de Christian Gonzalez, il a réussi une interception.
Mmh. On a parlé de Bijan Robinson, qui n'a pas été mauvais.
Qui n'a pas été mauvais non plus. Donc, le replay est dispo sur vos applis de podcast, donc n'hésitez pas à aller faire un tour dessus. Mais on va s'intéresser à d'autres équipes dans ce débrief. Les Seahawks qui redémarrent, les Bengals qui confirment, et une affiche qui a un petit peu déçu, c'est le programme du jour. Avant de démarrer, on vous rappelle que nos émissions du mois de septembre vous sont présentées par Sisplay. Vous vivez la saison régulière sur Sisplay cette saison et pour les trois années, les trois saisons à venir, en tout cas cette saison et les deux suivantes, voilà, je vais y arriver. Tous les dimanches à 19h, une affiche NFL en direct gratuitement sur Sisplay. Grande annonce de la semaine, on ne l'avait pas encore annoncé. Patriots Jets pour la troisième semaine, ce sera la troisième affiche. Patriots qui est quand même une des franchises les plus suivies en France, donc je pense que il y aura un public. On va commencer, je le disais Raphaël, avec les Detroit Lions contre les Seattle Seahawks, 31 pour Detroit, 37 pour Seattle en prolongation. Le réveil de Geno Smith, match solide pour le quarterback des Seahawks, 6 sur 7 sur la première offensive de la prolongation, passe de touchdown pour Tyler Lockett, merci, au revoir. 32 sur 41, 328 yards, 2 touchdowns, aucune interception. C'est pour ça, Raphaël, qu'il ne faut pas trop s'inquiéter après une défaite en première semaine.
Non, effectivement, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop s'inquiéter. D'autant plus, je trouve, quand les défaites sont très marquantes, avec vraiment rien qui ne fonctionne, où tu vois que c'est plus du manque de rodage, du manque d'automatisme entre un quarterback et ses joueurs, d'autant plus que mine de rien la semaine dernière il avait perdu ses deux tackles en cours de match, là il n'était pas là, mais au moins il ne savait qu'il n'était pas là, donc c'était un autre type d'automatisme à prendre. Donc oui, c'est pour ça qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Et tu l'as dit, Geno Smith qui finalement est revenu à des prestations du niveau de celle de l'an dernier qui ont permis d'être prolongé par Seattle.
C'est ça, on est revenu à peu près à un niveau équilibré. Très beau match, jamais plus de 7 points d'écart entre les deux équipes. Détroit a mené 21-14, Seattle est repassé devant dans le dernier quart. Détroit a bien défendu et égalisé pour arracher la prolongation. Sur quoi ça se joue finalement, si on revient au match en lui-même, Raphaël ?
Pas grand-chose. Hein. Les deux équipes nous ont offert d'ailleurs, c'est à peu près l'équivalent du match de l'an dernier. Hein. C'était déjà rencontré en saison et ça avait, pareil, tapé dans les 35 par là. Ça s'est joué un turnover, je trouve, en défense. C'est peut-être l'interception pour un touchdown de Trey Brown du côté de Seattle qui fait, à la fin, comptablement la différence, puisque la défense de Détroit, finalement, a pas vraiment réussi à créer le gros turnover impactant, on va dire ça comme ça. Donc, ça s'est joué sur un petit détail. Mais les équipes, globalement, le niveau n'était pas hyper, hyper différent et ça s'est vu dans le scoring. Et peut-être, si on doit encore un peu plus développer, ça se joue peut-être sur la difficulté, j'ai trouvé, de Détroit à couvrir les receveurs de Seattle. On a vu que les receveurs de Seattle, notamment sur les extérieurs, avaient un peu plus de facilité quand même à être démarqués, à faire les réceptions, et ça s'est sans doute joué là-dessus quand même.
Oui, c'est vrai qu'il y a, y a quand même du beau monde. Taylor Lockett qui continue quand même d'être un des hommes de base. C'est le plus régulier en fait hein, de ce groupe de receveurs. Il n'est pas aussi spectaculaire que Metcalf, mais il est quand même tout le temps là. Il était déjà là avec Russell Wilson. C'est quand même un joueur essentiel. Je complète juste ce que tu disais. L'an dernier, il y avait même eu 48 à 45 hein,
oh, bah
entre
voilà,
ces deux
ouais,
équipes. Donc c'était vraiment un festival offensif. Il y a quand même aussi la capacité à surmonter les blessures qui a joué, parce que tu le disais, les deux tackles des Seahawks étaient blessés. C'est Stone Forsythe et Jack Curran qui ont joué, et ils ont autorisé aucun sac, aucune pénalité. Donc quand même, ça a été essentiel cette capacité à surmonter les blessures.
Ouais, effectivement, ça a été essentiel, tu l'as dit, offensivement, parce qu'on pouvait craindre justement que la ligne offensive prenne beaucoup de pression sans ses tackles titulaires, et notamment face à un pass rush de Détroit qui nous avait semblé en forme en première semaine, Aiden Hutchinson, etc. Ils ont tenu le jeu, et je parlais tout à l'heure de Trey Brown, mais Trey Brown, c'est le cornerback remplaçant de Rick Woolen. Rick Woolen n'était pas là, et du coup, c'est Trey Brown qui monte en tant que titulaire, et ça, pour le coup, en NFL, c'est vraiment important de pouvoir compter sur ses remplaçants. C'est l'ancien coach des Giants, Tom Coughlin, qui a remporté un titre avec les Giants et qui expliquait que finalement le niveau d'une équipe se juge au niveau de son 53e joueur. Et à quelque part, c'est pas faux, c'est qu'il y a tellement de blessures en NFL, il y a tellement besoin de faire tourner qu'à un moment, il faut que les mecs qui jouent quelques snaps, l'écart soit presque minime en fait. Et donc Seattle a pu compter là-dessus. Et donc encore une fois, c'est aussi, faut féliciter le staff de
Oui,
Seattle.
j'allais dire, c'est un peu une habitude aussi dans les équipes de Pete Carroll. Hein. C'est des schémas qu'on voit souvent. C'est cette capacité aux joueurs du banc à prendre le relais. En tout cas, ça a été plutôt bien fait, encore une fois, de ce côté-là. Est-ce que du côté de Jared Goff, alors il y a eu de la pression, évidemment, sur lui. Il manquait aussi du monde sur la ligne. Mais est-ce qu'il n'a pas manqué un petit peu d'aide au sol? Parce qu'on a parlé de Bijan Robinson, d'ailleurs, dans l'introduction, en disant qu'il avait été incroyable. Les Lions, ils ont un mec qui s'appelle Jahmyr Gibbs, qui a couru 7 fois pour 17 yards seulement. C'est un 12e choix de la draft. J'ai aucune pitié pour les coureurs sélectionnés au premier tour. C'est-à-dire que moi, c'est 100 yards par match que je demande quand tu es un coureur sélectionné dans le top 20. Voilà, je ne veux pas le savoir.
Non, mais je suis plutôt du même avis. Si tu es sélectionné à ce niveau-là, faut vraiment enchaîner les yards et les touchdowns parce que sinon, j'en vois pas tellement l'intérêt. De toute manière, l'utilisation de Jahmyr Gibbs sur ces deux premiers matchs est un peu étrange, hein. La semaine dernière contre les Chiefs, il a des courses explosives, il est très peu utilisé. Cette semaine, c'est plus difficile dans les courses et on l'utilise pas beaucoup plus non plus sur le jeu aérien où normalement il est censé pouvoir aussi un peu apporter en sortant de la boîte.
Bah, il a 7 réceptions quand même, mais pour 39 yards au total, donc c'est pas très long.
Ouais, et comment dire? Et sur la en goal line surtout, pareil, il n'est pas du tout utilisé. On préfère confier les portées, notamment à David Montgomery qui est sorti sur blessure, donc peut-être ça a mis un coup d'arrêt également au jeu au sol. Et après, tu parlais de la ligne offensive. Moi, j'ai trouvé qu'il y a eu aussi un avant et un après blessure de Vataille, leur lineman offensif. Quand il est sorti sur blessure, tout de suite, on a vu que la pression augmentait sur Jared Goff et le jeu de course était encore plus en difficulté qu'il ne l'était avant sa sortie. Donc, ouais, pas Jared Goff, effectivement, pas aidé par le reste de son équipe pour le coup.
Parce que lui, il n'a pas grand-chose à se reprocher. Hein. Il a 28 sur
Non.
35,
Non,
323 yards,
effectivement,
3
oui.
touchdowns. L'interception, c'est sa première depuis 383 tentatives de passe.
Il fallait que ça arrive.
Voilà, il fallait que ça arrive. Mais honnêtement, oui, ce n'est pas lui qui a blâmé. Tu l'as dit, hein, la couverture aérienne a souffert un peu. Aussi, ils avaient des remplaçants qui étaient en jeu. Donc, on en revient à ça, à cette capacité à gérer la profondeur de banc. Oui, tu allais ajouter
Non,
quelque
j'allais dire
chose?
ce qui est peut-être décevant, c'est quand même la capacité de Détroit à mettre la pression sur Geno Smith sur ce match, parce que malgré tout, ils affrontaient une ligne offensive adverse avec des remplaçants. Et on les a pas vus et on l'a dit on a, avant l'inter enfin on l'a dit pendant l'intersaison, on l'a martelé à plusieurs reprises que un des moyens pour Détroit de passer un cap, c'était en défense et notamment sur le pass rush avec les jeunes joueurs qu'ils ont et le talent a priori qu'ils ont. Et si ça progresse pas, bah on risque d'avoir finalement Détroit qui fait la même saison que l'an dernier, beaucoup de points, mais à la fin.
Ce que c'est à peu près ce que j'allais te dire justement. J'allais te dire, est-ce que c'est inquiétant qu'ils perdent dans les tranchées ce match? Parce que j'ai un peu l'impression que c'était l'identité que voulait mettre Dan Campbell. On est costaud, on gagne le combat physique, etc. Et là, ils ont perdu le combat physique. Tu l'as dit, il y a Vaitai qui sort et la ligne offensive a du mal. La ligne défensive met pas la pression sur Geno Smith et c'est là qu'ils perdent ce match aussi, j'ai l'impression.
Oui, non, je pense qu'effectivement, ils le perdent en grande partie là-dessus, sur un pass rush qui, du coup, est pas assez performant pour aider les cornerbacks et safety. Donc oui, je te rejoins là-dessus. Je pense que c'est essentiellement sur les tranchées qu'ils perdent ce match. Après, encore une fois, on n'en est qu'au deuxième match. On
Oui.
va, là aussi, on n'est pas encore sûr que ce soit une dynamique de saison.
Bien sûr. Bon, en tout cas, le calendrier qui arrive d'ailleurs, c'est Panthers, Giants, Bengals, Cardinals, donc il y a en plus
Tu
des...
peux te relancer
Voilà.
bien.
Je dis une bêtise, ça c'est la suite du calendrier des Seahawks.
Ah, c'est pas tout à fait
Je suis en
pareil,
train
du
de
coup.
me demander si je dis pas une bêtise. Oui, c'est la suite du calendrier des Seahawks, ça, pardon. Bon, en tout cas, justement, les Seahawks qui se sont relancés, qui ont retrouvé de l'explosivité pour le coup. On parlait des tranchées. Seattle, c'était quand même de retrouver un peu DK Metcalf qui prend 6 ballons, Lockett qui en prend 8. Le jeu au sol a été un peu moins performant, mais ça leur laisse presque une marge de progression, du coup.
Oui, moins performant, mais en même temps, il y a aussi quelques belles courses quand même de Kenneth Walker et des touchdowns. Donc, ils ont su quand même conclure par rapport à d'autres équipes cette semaine. Ils ont su conclure au sol ou en tout cas utiliser intelligemment leur sol, même si ça n'a pas toujours été très efficace. La diversité, ça reste quand même important à NFL d'être capable de faire un peu autre chose et de ne pas être trop unidimensionnel dans un sens ou dans l'autre. Et là, j'ai trouvé que Seattle jouait bien la course, jouait bien, enfin, tentait de bien l'utiliser. Après, ça n'a pas toujours fonctionné, mais comme tu dis, s'ils arrivent en plus à progresser à ce niveau-là, ça peut être que positif pour la suite.
On passe au match entre les Bengals et les Ravens. 24 pour les Bengals, 27 pour les Ravens qui ont été devant tout le match. Ils n'ont jamais été menés. On va y venir, mais l'histoire de ce match, c'est d'abord la faillite des Bengals. Seulement 35 yards à la passe pour Joe Burrow à la mi-temps. Un début de rythme après la pause avec des passes courtes. Deux longs drives de touchdown pour recoller, mais trop tard. Est-ce qu'on commence à s'inquiéter pour Cincinnati, Raphaël, sans mentionner le fait qu'il avait l'air encore gêné par son mollet?
Ouais, bah c'est un peu lié parce que tu dis sans mentionner le fait, mais c'est vrai que ça c'est dur de pas mentionner le fait que Burrow a l'air un peu emprunté physiquement et que ça a même l'air de s'être empiré cette semaine. Il y a quand même peu de chances de le voir en semaine 3. Enfin, disons que c'est pas totalement rassurant. Mais oui, pour le moment, c'est vrai que c'est une attaque qui, de manière surprenante, n'est pas du tout au niveau attendu. Pareil, on a un Ja'Marr Chase qui sur ses deux premiers matchs fait moins de 40 yards à la réception. L'an dernier, ça lui est arrivé qu'une seule fois. Là, ça fait déjà deux. Donc, c'est significatif. Et de manière générale, en fait, je trouve même que c'est significatif sur le fait que les Bengals n'arrivent pas à installer leur jeu offensif, qui est notamment basé sur beaucoup de jeux explosifs, de grosses actions. Et à quelque part, ça me rappelle un peu Patrick Mahomes. Ça me rappelle un peu les Chiefs et Patrick Mahomes il y a un ou deux ans, quand les défenses se sont mis à jouer beaucoup de couvertures avec deux safeties pour empêcher Mahomes de trouver Tyreek Hill en profondeur, pour empêcher les jeux explosifs. Et les Chiefs avaient su se réinventer avec un peu de temps. Ils avaient eu quelques matchs de rodage. Mais ils avaient su se réinventer avec beaucoup plus de jeux courts, de passes intermédiaires. Et je pense que les Bengals vont devoir aller vers là parce que les défenses, finalement, vont se mettre à défendre Burrow comme un Mahomes et ne veulent plus autoriser de gros jeux, de gros plays. Donc, et d'ailleurs, à mon sens, hein, en deuxième mi-temps, quand même, offensivement, quand ça a commencé à être un peu mieux du côté de Cincinnati, c'est quand Joe Burrow a fait beaucoup plus de passes courtes pour prendre un peu de rythme et avancer les chaînes, en fait.
C'est vrai que c'est un peu la beauté d'ailleurs de la NFL, c'est que tu peux pas faire la même chose éternellement. Il y a toujours un moment où ça s'adapte en face. Et c'est vrai que le moment est peut-être venu. Après, tu le disais, le mollet, je pense qu'il va continuer à jouer, mais qu'il va être gêné. Donc c'est jamais une bonne chose. Et j'ai l'impression quand même, c'est un peu ce que tu disais, il va falloir qu'il se renouvelle parce que clairement, moi je trouve que sur ce match, on voit, ils sont limités à 282 yards, même contre une bonne défense, c'est quand même peu pour une équipe qui a ces prétentions-là. Et en effet, ils développent pas de jeu au sol, ils développent pas la ligne vraiment, ils restent là, ils arrivent avec le même plan de jeu que l'an dernier ou l'année d'avant. Donc forcément, ils sont accueillis. John Harbaugh en face, c'est quand même pas n'importe qui au poste de coach. Donc voilà, la bonne nouvelle pour eux, c'est qu'on parlait de continuer à faire comme l'an dernier. L'an dernier, ils étaient à 0 victoire, 2 défaites aussi quand ils ont commencé la saison. Problème supplémentaire quand même cette année, c'est 2 défaites de division pour commencer. Donc en cas
C'est vrai.
d'égalité, ça peut être un peu plus problématique. Mais pour et alors pour les semaines à venir, ils ont Rams, Titans, Cardinals qui arrivent. ce qui peut être l'occasion de se relancer. Mais encore une fois, mollet de Joe Burrow, plus adaptation des défenses d'en face, plus peut-être petit coup de mou de certains autres joueurs, mais il y a quand même une raison de s'alarmer. Du coup, ils sont quand même en danger de manquer les playoffs, mine de rien, parce que là, c'est deux matchs qui comptent. Hein.
Oui, c'est deux matchs qui comptent. Ils sont forcément en danger parce que on n'est pas certain sur ce qu'on a vu pour le moment qui vont réussir à tout de suite reprendre l'ascendant sur cette mauvaise dynamique. Et s'ils commencent à, ne serait-ce là sur les trois prochains matchs que tu cites, s'ils en perdent un ou deux, ça va commencer à vraiment sentir mauvais. Et d'autant plus si j'anticipe beaucoup, mais s'ils venaient à perdre contre Tennessee, qui est une autre équipe d'AFC, contre lesquelles tu peux potentiellement en fin de saison jouer une wild card, enfin voilà, c'est ce genre de match aussi à ne pas perdre intra-division. Donc oui, ça peut être compliqué. Et juste pour compléter, je trouve même que la défense est pas si enthousiasmante que ça. On s'attendait un peu à mieux quand même de la défense des Bengals. Et moi, ce qui m'étonne et ce qui me déçoit peut-être le plus par rapport à l'an dernier, c'est que même par rapport à ces deux dernières saisons, souvent on voyait une défense de Cincinnati qui à la mi-temps faisait les bons ajustements et parvenait à bloquer l'adversaire et à s'en sortir comme ça. Et là, sur ces deux premiers matchs, je trouve que même en défense, ils trouvent pas vraiment la solution en deuxième mi-temps, quoi. Ils continuent à se laisser avoir. Donc, on parle beaucoup de l'attaque, mais même la dynamique en défense, je la trouve pas particulièrement enthousiasmante.
C'est vrai. Juste pour finir avec l'attaque, sachez quand même qu'il a été blitzé sur quasiment 53% de ses tentatives, Joe Burrow. Donc clairement, on attaque le mollet. Hein. je pense que il y a quelque chose là qui se voit.
Ouais, bah c'est pas illogique hein, de lui mettre un maximum de pression. Tu dis qu'il est peut-être un peu blessé, donc il va aussi beaucoup moins bouger dans la poche, beaucoup moins tenter de sortir et t'essayer un peu de le pressurer au maximum.
Pour les Ravens, ça fait 2 victoires, 0 défaites. Pas forcément convaincant en première semaine, beaucoup plus dans ce match quand même. Lamar Jackson, beaucoup plus équilibré, 24 sur 33, 237 yards, 2 touchdowns, aucune interception, 54 yards au sol. Ça se pose, on rappelle quand même qu'ils ont un nouveau coordinateur offensif cette année, Todd Monken. 178 yards au sol sur ce match, 237 dans les airs. On commence à voir quand même du potentiel, Raphaël, sur cette attaque.
Ouais, comme tu dis, je trouve que c'est une des performances offensives de Baltimore les plus intéressantes depuis pas mal de temps, avec un Todd Monken qui est en train vraiment d'apporter de la diversité dans cette attaque. Alors certains diraient que peut-être maintenant qu'il y a un peu plus de cibles, c'est peut-être aussi un peu plus facile de développer un jeu aérien un peu plus étoffé, on va dire, que ce que les Ravens ont pu faire par le passé. Mais c'est vrai que la course reste la base de l'identité offensive, mais malgré ça, on n'hésite plus à aller à varier le playbook pour Lamar Jackson, à lui faire lancer en profondeur, à lui faire lancer beaucoup dans le slot hein, sur ce match.
Oui.
Il a beaucoup de ses receveurs qui vont dans le slot chercher des passes un peu intérieures, intermédiaires.
13 passes complétées sur 24 dans le slot.
Voilà, donc tu vois, c'est pas et de mémoire c'est aussi. Enfin, il me semble avoir lu que 2 de ses touchdowns sont sur le slot. Enfin, bon, sur un receveur qui part dans le slot. Bon, c'est tout ça pour dire que le cahier de jeu offensif des Ravens se diversifie et c'est forcément bon parce que les équipes d'en face ne peuvent plus se concentrer autant sur le jeu de course, à mettre autant de cornerback, de safety, de linebacker dans la boîte et se dire bon, on va bloquer la course. Donc, bonne impression.
On en revient à ce qu'on disait. Il faut s'adapter en NFL aussi. Il faut progresser. Il faut faire des choses différemment, évoluer pour survivre. Et on le disait, John Harbaugh, c'est pas n'importe qui. Il sait trouver ce genre de choses-là. La défense, quand même, a aussi été solide. Hein. Elle a fait son boulot. Elle a mis la pression sur Joe Burrow. La FC Nord qui se cherche un favori. Les Bengals à 0-2. Les Steelers qui n'ont peut-être pas le même niveau au poste de quarterback. Les Browns encore un peu incertains. Les Ravens, mine de rien. Commence à avoir une petite tête de
prétendants. En tout cas, ils seront pas éloignés. Enfin, ils seront pas loin. À mon avis, ils seront pas loin du compte.
On enregistre avant le Steelers. On enregistre juste avant le match entre les Steelers et les Browns. Hein, on vous le précise parce que peut-être qu'il y a eu un carton monumental que les Browns ont gagné 50-0 et qu'on va nous dire bah oui. Mais en tout cas, les Ravens très solides sur ce match. Jaguars, Chiefs, 17-9 pour les Chiefs. C'était une des plus belles affiches de la semaine sur le papier. Ça a finalement été un des matchs les plus décevants, on va pas se mentir. 3 ballons perdus et 12 pénalités pour les Chiefs qui gagnent parce que les Jaguars ont été incapables de capitaliser sur cette pluie d'erreurs. 0 sur 3 pour Jacksonville dans la zone rouge. Ça ressemble quand même à une énorme occasion manquée, Raphaël.
Oui, ça ressemble à une bonne occasion manquée de faire un peu un match référence face aux champions en titre, de mine de rien le battre pour une potentielle position plus loin en playoff, avoir un avantage à domicile, pourquoi pas. Enfin voilà, dans des matchs de position, ça peut compter. De positionnement pour les playoffs, ça peut compter en fin de saison. Donc oui, je te rejoins sur le côté grosse occasion manquée. Et puis comme tu l'as dit en intro, grosse occasion manquée, parce que les Chiefs ont donné le bâton pour se faire battre à plusieurs reprises. Ils l'ont vraiment tendu et Jacksonville n'a pas voulu s'en saisir. Donc ouais, c'est à ce
C'est
niveau-là, c'est
assez
dommage.
dingue, hein. On a vraiment l'impression que les Chiefs n'y arrivaient pas, mais ils ont réussi quand même quelque chose, c'est leur défense. Parce qu'on peut être aussi positif là-dessus, c'est pas la marque de fabrique des Chiefs, en tout cas dans l'esprit global, même s'ils sortaient des bons matchs en playoff quand il fallait, mais ils ont quand même mis une pression constante sur Trevor Lawrence, qui finit à 22 sur 41, 216 yards, et qui prend 4 sacks surtout. C'est ça quand même la grosse bonne nouvelle pour les Chiefs, le vrai point positif, avec le retour de Chris Jones évidemment, un sac et demi, une passe déviée, deux quarterback hits, ils changent vraiment tout.
Ouais, alors effectivement, Chris Jones apporte au-delà du leadership, etc., qui peut apporter. Il a une capacité à faire des grosses actions à des moments vraiment importants. Et ce week-end, ces deux sacs, c'est sur quatrième tentative. Il y a une autre troisième tentative où il met énormément la pression à Trevor Lawrence et ça provoque l'interception lancée par Trevor Lawrence. Donc je veux dire, c'est Et finalement, c'est là où c'est quand même, je trouve, assez positif pour cette défense des Chiefs, c'est que moi, je la trouvais solide avant que la saison commence. Sincèrement, on en avait parlé dans le Power Ranking et je pensais que c'était une escouade qui pouvait surprendre positivement. Et le premier match, il s'en était bien sorti sur Chris Jones, parce qu'au final, les Chiefs en défense n'avaient pris que 15 points, si tu retires le pick 6, qui
C'est
n'est pas de
ça.
leur faute.
J'allais te dire, si on retire le pick 6 qu'ils ont pris, en effet, les Chiefs ont pris 30 points au total. Mais si tu retires le pick 6, ils ont pris que 23 points en deux matchs. Hein.
Bah voilà, 23 face aux Jaguars et aux Lions, qui sont deux
C'est ça.
équipes qui ont quand même des grosses attaques, beaucoup de joueurs. Donc vraiment, moi je trouve cette défense était, à mon sens, était en train de montrer qu'elle était solide, mais comment en plus tu rajoutes Chris Jones, qui est un peu ta pépite là-dedans et qui vient rapporter du gros jeu et de l'impact, bah c'est une défense qui commence à avoir vraiment une belle figure et je me dis que si cette défense parvient à maintenir ce niveau-là, et l'attaque va forcément s'améliorer, parce que là, il y a tellement d'erreurs individuelles que j'ai du mal à croire que ça reste comme ça toute la saison. Enfin, je veux dire, on a vu quand même Joe Thuney qui a fait des pénalités aussi. Alors, Jawan Taylor, j'en parle même pas, parce que alors là, à ce niveau-là, c'était...
Quatre pénalités.
Ouais, j'ai du mal à croire que ça puisse arriver toutes les semaines. J'espère pas, en tout cas. Et puis, on a aussi vu, par exemple, le centre Creed Humphrey, qui est un des meilleurs de la ligue, qui a fait beaucoup de mauvais snaps
Oui.
dimanche. Bon, il l'a jamais fait l'an dernier. Là, c'était sur un match. Tout ça pour dire qu'il y a un moment où Kansas City va arrêter de faire autant d'erreurs en attaque. Moi, j'en suis sincèrement persuadé.
Et on donne la circonstance atténuante, c'était un match où il faisait plus de 35 degrés, ça devait pas être facile aussi de jouer
Non, c'est
en
sûr. Ça
Floride.
devait pas être facile quand tu vois le gabarit des bonhommes avec les équipements et tout. Donc, ça peut aider à ça. Donc, tout ça pour dire quand cette attaque va retrouver son vrai niveau, si la défense arrive à maintenir ce qu'on voit depuis 2 semaines. Bah, va falloir encore une fois
Ouais.
aller les chercher, les amis de Kansas City, parce que ça va pas être une partie de plaisir.
Ouais, non, c'est pour ça que je trouve que c'est un vrai point positif. Juste pour ajouter sur Chris Jones et la défense, je trouve qu'en plus il libère un peu Georges Karlaftis, qui c'est pas un hasard s'il a un sac et demi aussi sur ce match.
Bien
Donc
sûr, hein.
au final, la seule manière que Jacksonville a trouvé de les faire souffrir, c'était un peu plein centre avec Christian Kirk sur des réceptions un peu courtes ou intermédiaires, Evan Engram aussi, mais la pression était telle qu'il n'y avait jamais le temps de développer quelque chose de vraiment plus long. Et après, Trevor Lawrence, il faut quand même le dire, a pas mal bafouillé. Il y a eu beaucoup de passes imprécises, mal dosées, surdosées, pas assez. Dans la end zone, quand il était dans la zone rouge et qu'il cherchait des joueurs dans la end zone, on a vu Calvin Ridley manger le poteau de l'en-but, etc. Parce que à chaque fois, c'était un peu olé olé et c'était trop haut et c'était trop loin, quoi.
Ouais, effectivement, Trevor Lawrence, c'est bien raté, bah notamment comme tu l'as dit en red zone. Hein. En red zone, il tente 7 passes, il en réussit 0, ce qui est quand même compliqué. Donc lui était pas là, ça c'est clair et net. Après, j'ai été aussi un peu quand même étonné par le coaching, on va dire, de Doug Peterson sur ces phases-là offensives, parce que, enfin, je me suis noté les 2 fois notamment où Jacksonville est dans les 15 yards de Kansas City, ils ont 6 actions, pas une seule course appelée.
C'était un
Bon,
des thèmes du soir, hein. Ça
Tu
n'avait même
vois,
pas appelé des courses des deux côtés. Hein.
je me dis, est-ce que quand même Jacksonville avec Travis Etienne pouvait pas tenter quelques courses en zone rouge dans les 15-10 derniers yards pour au moins pour créer un peu de doute dans la défense de Kansas City? Donc voilà, j'ai trouvé ça assez téléphoné. Et la seule, effectivement, en plus, la seule course qu'ils ont appelée, c'est une course pour Trevor Lawrence où alors il s'est fait griller d'entrée de jeu et ça les a en plus, ça leur a fait perdre des yards bêtement. Bon, voilà, j'ai. Personne n'était très bon offensivement du côté de Jacksonville.
Et en effet, même dans les choix de coaching, on l'avait remarqué pendant le match avec Grégory, dans la zone rouge, non seulement il n'y a pas de course, mais il n'y a aucune course de Tank Bigsby, par exemple, qui est quand même un coureur lourd qu'ils
Bah
avaient
ouais, bien sûr,
recruté
ouais.
un peu pour ça. Donc on s'est un peu étonné. Après, c'était vraiment le thème du soir, au sens où les deux coachs, donc Andy Reid et Doug Peterson, se connaissent bien. Peterson, il a dit: je suis ton élève, tu n'aimes pas courir, tu n'aimes pas utiliser les coureurs de talent. Ce soir, ce sera le thème, on va balancer 200 passes. Au final, il y a 41 passes pour Lawrence, 41 passes pour Mahomes, hein, et les Chiefs, ils commencent à courir que quand ils sont devant pour bouffer du chrono. Ce que j'ai trouvé ultra frustrant, parce que Pacheco, quand il touchait le ballon, il faisait des choses. Donc c'est pareil, ils auraient pu l'utiliser plus vite. J'allais demander si c'est une réelle frustration, pourquoi il court pas plus, etc. Mais on va pas réinventer Andy Reid maintenant après
Oui.
tout ce temps, quoi.
Non, non, on va pas le réinventer, c'est sûr. Il a cette préférence pour le jeu aérien et voilà, ça reste.
Ce que je trouve plus dur à excuser en fait là, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de pression sur Mahomes, même s'il prend qu'un sac, mais il a souvent des défenseurs sur la tête. Trayvon Walker était bon, Josh Allen avant de se faire un peu mal était bon. Donc il était sous pression, il avait quand même l'air vraiment sans solution par moment. Les receveurs sont quand même pas incroyables. Alors il a distribué un nombre de cibles incroyable, je crois qu'il y en a 11 qui sont touchés, mais Sky Moore, Watson, Gray, Tonnet, c'est pas des joueurs très très encore convaincant, enfin, c'est vraiment par intermittence, Valdes-Scantling aussi, Rashi Rice aussi. Donc c'est dans ces conditions-là, en fait, moi, que je comprends pas de pas s'appuyer plus quand même sur tes coureurs. Voilà, c'est plus ça, moi, qui me...
Ouais, oui, je peux entendre.
Surtout, encore une fois, quand Pacheco marche bien, quoi. Il marche plutôt bien. Tu disais, il y a Creed Humphrey, Joe Tonnet à l'intérieur de la ligne,
Ah oui,
la
il
ligne,
peut passer par l'intérieur, a
voilà
priori.
quoi, il y a
Ouais.
du matos quoi, c'est ça qui est un peu frustrant. Bon, on s'inquiète pas non plus donc pour l'attaque de Kansas City quand même, Raphaël, ça va prendre du rythme pour toi.
Écoute, moi je pense sincèrement que ça va prendre du rythme. Ils ont quand même aussi changé de coordinateur offensif. Bon, on n'en est qu'à 2 matchs. Et en fait, on est tellement sur des erreurs un peu bêtes individuelles. Tu vois, j'ai pas l'impression que ce soit un système qui soit en faillite plus que vraiment de l'exécution. Et j'ai quand même un peu plus tendance à penser que l'équipe championne en titre, avec un coaching staff éprouvé, puisse régler ces questions-là. Donc, bon.
On va leur faire confiance alors. Et les Jaguars également. Encore une fois, bon, on a moins de garanties avec Trevor Lawrence parce qu'il est plus jeune. Mais sur le papier, ça reste aussi pas un non-match, mais ils ont joué quand même largement en dessous de leur potentiel. La défense, mine de rien, aussi est la satisfaction de leur côté parce qu'ils limitent les Chiefs à 17 points. Et en attaque, ils peuvent que faire mieux. Il y a les armes quand même.
Oui, effectivement, leur défense a été plutôt intéressante. On a senti quand même que c'était un poil plus compliqué quand Josh Allen est sorti un peu blessé et ils ont enchaîné plusieurs drives sans lui et c'était quand même globalement un poil plus compliqué. Bon, globalement, c'est quand même une bonne prestation. Et comme tu dis, l'attaque, ils sont passés à côté.
Ça reste une équipe jeune, hein. De toute façon, il y aura des
Ça
hauts et des bas
reste
pour le coup.
ouais, ça reste une équipe jeune. Ce match-là va pas me faire oublier la dynamique qu'il y a eu tout l'an dernier de progression. Donc là aussi, de mon côté, ça sera bénéfice du doute.
Eh bien, très bien, on va finir là-dessus. Ce débrief des principales affiches de la semaine 2 de la saison 2023 en NFL et de la 13e saison, ça fait beaucoup hein, de chiffres maintenant. Je crois qu'il faut que je trouve un truc pour simplifier. C'était l'épisode 632, on va dire ça. On parle des autres matchs de la semaine 2. Demain, ce sera avec Victor Roulier. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. Merci beaucoup, Raphaël.
Eh ben merci à toi.
Et on se retrouve très très vite sur les antennes de TDA. Ciao, ciao!
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ.
Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Procas Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.